Sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne. Et si vous avez bonne mémoire, vous savez qu'avant-hier, nous recevions dans cette émission une étudiante de L3 Droit Public, Amaryllis Fidalgo, ainsi qu'un professeur de droit public, Emmanuel Aubin. Ils étaient venus nous expliquer que ces étudiants ont travaillé au cours de ces deux derniers semestres sur l'adaptation de la fonction publique aux conséquences de la pandémie Covid-19. Deux points, comment maintenir l'action publique? Interrogation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir trois étudiantes de cette même formation et qui viennent nous parler de l'administration pénitentiaire face à la Covid-19. Bonjour Agathe Fontenot.
Bonjour.
Bonjour Julie Grattilli.
Bonjour.
Et nous avons également avec nous une autre étudiante qui est venue nous parler des universités face à la crise Covid-19. Bonjour Emma Desbrés.
Bonjour.
Alors mesdames, je vous laisse la parole. Qui va commencer par nous parler de son sujet de travail?
Bah j'y vais. Du coup, mon groupe et moi-même, mon groupe composé de Simon Lannes, Dienaba Diop, Kimberly Loret et Chloé Bouffette, on a travaillé sur l'adaptation des universités à la crise du Covid-19, adaptation dont on a été finalement les premiers acteurs étant étudiants. Donc on a choisi ce sujet parce que bah justement on était les premiers acteurs et plus simple et non parce qu'il fallait pas centrer le sujet seulement sur les étudiants mais y intégrer également les agents de l'université, un univers qu'au final on connaît que très peu. Mais donc du coup bah on a fini par faire ces rapports. Du coup, on a commencé par étudier de manière générale comment l'université s'était adaptée, comment les locaux s'étaient adaptés, comment les instances de direction des universités s'étaient adaptées. Puis on a traité de la précarité des étudiants et des jeunes, et des agents. Question qui a été abordée par mes camarades. Du coup, au niveau de l'université et de comment elle s'est adaptée, bah, on le savait évidemment, puisqu'on est à l'université depuis septembre, depuis la crise. Donc on se rend compte que la situation était différente entre septembre et aujourd'hui. Finalement, en septembre, on a pu aller à l'université presque normalement, disons, avec les masques et les bornes de gel. Évidemment, en octobre, ou au deuxième confinement, tout a été fermé, où on n'a plus pu retourner à l'université et ensuite le deuxième semestre qui s'est passé pour la plupart des étudiants complètement à distanciel, excepté pour certains travaux. Cependant, on peut noter qu'il y a eu des adaptations, notamment pour les étudiants de L1 qui ont pu retourner en TD, pour des étudiants fragiles également qui ont pu retourner en TD. Et maintenant, désormais, c'est 50% des étudiants qui peuvent retourner à l'université. Bon, nous, on est en droit, on a fini les partiels, on n'est pas concernés, mais il y a un bon nombre d'étudiants qui sont concernés, qui, je pense, sont très heureux de pouvoir retourner sur les bancs de la faculté. C'est là qu'on a pu voir une réelle différence, en fait, entre le tout premier confinement où tout était fermé, où les bibliothèques étaient fermées, où on avait accès, pour ainsi dire, à rien, où tous nos cours étaient en distanciel, où même le distanciel n'était pas très, très effectifs puisque on avait pour la plupart des cours en PDF ou on n'avait pas forcément des outils de visioconférence qui ont été installés à partir de cette nouvelle année. Donc on peut noter une adaptation ici assez notoire. Ensuite, il y a eu plein de questions au niveau des examens qui ont causé beaucoup, beaucoup de discorde. Puisque examen à distanciel, examen en présentiel, ça crée notamment des ruptures d'égalité. Or, l'université est un service public et l'égalité, c'est quand même un principe de base. Donc entre ceux qui ont passé des examens en présentiel, en distanciel, ça n'a pas été les mêmes conditions. Certains ont jugé qu'en fonction du mode d'examination, ils n'auraient pas eu les mêmes notes ou enfin, plein de discordes et puis des fois des mises en examen en des conditions pas très très favorables à une situation de pandémie où on a vu notamment sur les réseaux sociaux partout des couloirs bondés de gens ou plein de choses qui paraissaient assez contradictoires avec la pandémie dans laquelle nous sommes. Donc ça a été quand même assez compliqué, je pense, pour les universités déjà de mettre en œuvre des solutions à apporter face à cette situation exceptionnelle qui n'est pas du tout favorable à un enseignement normal. Et ça, je pense que tout le monde le comprend et tout le monde est d'accord pour dire qu'il était sensiblement pas possible de retourner à l'université comme avant. Cependant, on peut noter quand même parfois des disparités et des choses qui, à notre sens, auraient pu être mieux faites, mais au final, on n'y était pas. Et puis c'était tellement exceptionnel que on pouvait peut-être pas savoir la bonne solution. On ne pouvait pas la voir de base et ça a été très compliqué de la mettre en place. Mais bon, ils ont fait comme ils ont pu.
Alors, quelques questions, Emma Desbré. Tout d'abord, vous avez parlé d'étudiants fragiles qui pouvaient revenir sur site. Alors, qui sont ces étudiants fragiles ?
Alors, ces étudiants, c'était des étudiants en très grande précarité, des étudiants qui n'avaient pas accès à des équipements informatiques nécessaires pour suivre les cours en distanciel. Il me semble qu'il y a eu les étudiants fragiles psychologiquement. Également, je ne sais plus, à vrai dire...
Peut-être les étudiants étrangers, les étudiants
aussi, d'échange. Oui. Il me semble que oui, que les étudiants internationaux faisaient partie de cette catégorie. Cependant, cette catégorie a été autorisée à revenir dès début janvier par groupe de 10. Seulement, ça a été mis en place assez rapidement et au final, il y avait très peu de temps entre le moment où le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé qu'on pouvait le faire et le moment où, au final, ça pouvait effectivement être mis en place dû à des problèmes d'emploi du temps, des problèmes matériels. Ça demandait toute une organisation qui n'a pas pu forcément être mise en place. Et du coup, ça a été compliqué. C'est pour ça que la plupart des universités ont décidé de ne pas forcément prendre en compte ces étudiants-là et préférer attendre la fin du mois de janvier pour que notamment les premières années et du coup ces étudiants fragiles puissent revenir. Du coup, ça a demandé un petit temps de latence et c'est notamment ce qui peut être à reprocher à toutes ces décisions du ministère de l'Enseignement supérieur, puisque au final, on a des décisions qui autorise des mesures, sauf que ça demande un temps d'adaptation à l'université que parfois elle n'avait pas forcément, et du coup il y a certaines mesures qui n'ont pas pu être mises en place dues à ce manque d'organisation.
Alors vous parlez bien des universités, non pas simplement de l'université de Tours. Est-ce que vous voulez nous expliquer quelle a été votre méthodologie, comment vous avez documenté toutes ces questions, comment vous avez été chercher des informations avec votre groupe ?
Alors je vous avoue que c'est pas moi qui ai traité de ces questions. Si ma collègue avait été là, elle aurait pu vous dire comment elle avait trouvé ces informations. Je ne le sais pas, désolée.
Alors c'est pas grave, mais comment vous, qu'est-ce que vous avez fait alors si vous n'avez pas fait cette collecte d'informations ? Quel a été votre rôle précis dans ce travail de groupe ?
Alors moi j'ai traité de la question de l'ouverture des universités. Dans mon premier rapport, j'ai traité du maintien des mandats et des instances de direction des universités, où avec le tout premier confinement, on a vu que il y avait certaines élections qui arrivaient à terme et qu'il fallait renouveler. Or organiser des élections, c'était un petit peu compliqué. Donc, avec le prolongement des mandats, ce qui a notamment été le cas pour l'université de Tours, l'ancien président de l'université, Monsieur Vendrix, il me semble, a vu son mandat prolongé jusque novembre ou octobre. Octobre, il me semble, jusqu'à ce que l'actuel président soit élu. Et j'ai également du coup traité toute de la question de l'ouverture des universités et de comment elle a dû s'adapter, notamment comment mettre en place, en septembre par exemple, on avait un protocole sanitaire strict qui était un nettoyage fréquent des amphithéâtres et des salles, une distanciation sociale entre les élèves, notamment des couloirs de passage, s'asseoir un siège sur deux dans les amphithéâtres, ou encore installer des bornes de gel hydroalcoolique. J'ai étudié sur ces questions-là. Et du coup, j'ai comparé avec la situation actuelle, qui est que l'université, pour nous, en droit, on n'a pas pu retourner à l'université malheureusement, mais du coup, étudier ces histoires des premières années qui peuvent retourner, et puis ensuite des jauges à 20%, et puis maintenant à 50%.
Alors peut-être pour nos auditeurs qui découvriraient que l'université a un président ou une présidente, est-ce que vous voulez nous expliquer un peu plus en détail à quoi sert un président d'université, qui l'élit en fait, comment on devient président d'université? Ah, la question piège.
La question piège, effectivement. J'ai pas mon rapport avec moi et je vous avoue que je ne m'en souviens plus. Il me semble que c'est le conseil d'administration qui l'élit, mais je suis absolument pas certaine de ce que j'avance.
Bon, alors, avis aux étudiants en droit, je passe commande d'une chronique sur le fonctionnement des instances diverses et variées de l'université. Pas que Tours, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'expliquer comment ça fonctionne, tout ça. Alors, cela étant, une autre question, je me demande, quand on traite d'un sujet comme celui-là, donc les universités dans la tourmente de la Covid-19, comment on arrive à prendre de la distance quand on est soi-même étudiant? Parce qu'on sent bien que c'est un sujet qui vous interpelle. Donc comment on arrive à rester quand même à distance?
En réalité, c'est assez compliqué parce qu'on a nous-mêmes nos opinions sur la gestion de la crise de l'université, on a nous-mêmes nos ressentis, ce qu'on a, toutes les émotions par lesquelles on a pu passer au travers de la crise. Ça, pour ma part, ça a été très compliqué de pas critiquer absolument tout ce que je devais mettre dans le rapport, mais c'est, on n'a pas le choix en fait, il faut juste au final dire de la situation actuelle et pas forcément dire ce que nous on pense, parce qu'au final ce que nous on pense c'est très bien, mais c'est pas forcément ce que tout le monde pense et il vaut mieux le garder pour nous dans ces cas-là.
Alors ça implique quoi, de re-rédiger certaines choses, de recommencer, parce que peut-être qu'il y a un moment où le premier jet est trop personnel, donc...
Ça implique, je pense, de rester juridique pour le coup, et de s'en tenir au texte, et de dire ce que dit le droit, et pas de ce que l'on pense véritablement, ce qui est quelque chose au final qu'on nous apprend à la faculté de droit, de pas tout mélanger entre ce que nous on pense et ce que dit la loi.
Mais ça veut dire que c'est une situation que vous allez rencontrer de façon fréquente lors de votre exercice professionnel, cette idée de faire bien la distinction entre « je pense que » et « la loi dit ».
Oui, oui, tout à fait.
Ah, donc là, bonne préparation.
Exactement.
Et alors, vous évoquez aussi des choses qui auraient pu être mieux faites. Alors, est-ce que vous avez quelques autres exemples à nous donner?
Ouais, évidemment, là, ce serait plus sur mon ressenti personnel, puisque... on n'a pas été à la fac, par exemple, sur ce deuxième semestre. Je pense que on aurait pu retourner à la fac à des jauges limitées. Il y a plein de choses, mais enfin, c'est moi qui le pense et c'est ce que j'aurais aimé finalement pouvoir retourner à la fac, même une semaine sur deux ou en hybride ou de façon un peu plus normale, de façon à rester moins seule chez moi au final. Mais je me doute que si on n'a pas pu retourner à la fac, c'est parce que la faculté n'a pas eu les moyens de le faire et n'a pas pu le faire. Donc,
Alors je vois vos deux camarades qui opinent du chef. Donc peut-être, est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit? Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de l'adaptation de l'université pendant cette pandémie?
Moi, je dirais que il y a eu des choses peut-être... à revoir, en tout cas qui ont été critiquées. Et je pense notamment à l'organisation des partiels qui a du bon, mais aussi on a quand même pu constater que c'est compliqué de garder une distanciation sociale correcte et que du coup c'était vraiment mettre en balance deux éléments. C'est sûr que c'est plus intéressant pour les étudiants, pour notre licence, de manière générale, de faire ces partiels en présentiel. Mais voilà, l'adaptation avec la crise a pu être critiquée, en tout cas sur ça.
Et puis, ce qui est critiquable aussi, c'est, pour moi en tout cas, pour les examens, le fait que selon les universités, ce ne soit pas la même chose. C'est vrai que dans certaines universités, notamment en janvier, en fait, pour les examens du premier semestre, certains ont eu, entre guillemets, la chance, comme nous, de le passer en présentiel, tandis que pour le même diplôme, d'autres universités ont fait le choix du distanciel. Et c'est vrai que ça peut créer des problèmes, entre guillemets, de valeur du diplôme. Parce que, bon, bah, il y a eu certains étudiants critiquaient le fait qu'on pouvait potentiellement plus tricher en distanciel dans certaines universités, alors que d'autres allaient en présentiel. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu ce conflit-là entre facs. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être critiquable le fait qu'il n'y ait pas eu d'harmonisation, en fait, au niveau national.
En effet, c'est dans notre second rapport qu'on doit rendre pour ce semestre, où on doit le rendre sous la forme d'un rapport parlementaire, où on fait au final des propositions de ce qui aurait pu être fait. C'est une proposition qu'on a faite d'harmoniser, en fait, par exemple, pour une telle filière, que tout soit en distanciel ou que tout soit en présentiel, ou même rien que le fait que, par exemple, si tous les cours ont été dispensés en distanciel, les partiels sont en distanciel, ou si tous les cours ont été dispensés en présentiel, les partiels en présentiel. Il y a eu des fois une logique qu'il n'y avait pas. Par exemple, si on prend l'exemple à Tours, le premier semestre, du coup, il y a eu le second confinement. Plus de la moitié du semestre, on s'est déroulé à distanciel et on a passé des partiels en présentiel. On peut se demander où est la logique. Après, le problème, c'est que quand il y a des partiels en présentiel, on râle parce que on était tous collés et c'était pas top pour le Covid. Et quand il y a des partiels en distanciel, on râle parce que c'était pas en présentiel. Donc finalement... Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle et que toutes les universitaires ont fait comme elles pouvaient. Et puis que bah, c'est comme ça, malheureusement.
Mais en tout cas, c'est une vraie question, cette idée de valeur du diplôme. Parce que, comment dire, ça veut dire qu'il y a les partiels qui ont été faits à distance. Est-ce que, manifestement, dans une promotion, tout le monde a eu 18? Ou alors, voilà, quelle est votre inquiétude vis-à-vis de ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été surnotés parce qu'ils auraient triché ou qu'ils auraient eu une épreuve plus facile. Et alors quoi? Ça veut dire que... en soi, quel est le problème? C'est-à-dire que peut-être vos candidatures seront moins valorisées sur un master, admettons? Ou quel est le problème de fond, en fait?
À vrai dire, nous-mêmes, on se rend compte que la difficulté des examens n'est pas la même à distance ou en présentiel. Du coup, forcément, on se dit que peut-être des gens qui seraient plus à l'aise en distanciel ou en présentiel auraient des meilleures notes. Et pour nous, en l'occurrence pour la sélection en master, ça pourrait jouer. Après, au niveau de l'université de Tours, enfin, en tout cas à la faculté de droit, sur notre relevé de notes du premier semestre, il y a inscrit que nous avons passé les partiels en présentiel. Est-ce que ça fait gage d'égalité? Ça peut, mais au final, on n'a pas tous passé les examens dans les mêmes conditions. Mais après, quoi qu'il arrive, c'est pas des examens qu'on passe. Du coup, dans chaque université, la difficulté de l'examen va être ressentie différemment par chaque étudiant. Est-ce que ça change beaucoup distanciel ou présentiel?
Je ne sais pas. Mais voilà, ça m'interpelle en tout cas, puisque vous évoquiez les unes et les autres cette injustice possible, en fait, entre le fait de gens qui auraient pu tricher en faisant un partiel chez eux. Voilà, donc oui, en effet, c'est une question de fond. Est-ce que vous pensez que c'est des modalités d'examen qui pourraient être gardées dans les années à venir, en fait, l'idée d'examen à distance
Non, non, non. En présentiel, c'était très très bien. Non, et puis même, en fait, pour avoir fait des partiels à distance, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. On est chez nous, on se connecte à un ordinateur à 8 heures pile, il faut vite cliquer sur le sujet, il faut le rendre à midi pile, sinon on voit affiché rendu avec 2 minutes de retard, et puis ça nous fait un peu stresser. En fait, je trouve vraiment que le fait d'aller à la fac, de se rendre avant devant l'amphi, d'entrer dans l'amphi, de se préparer vraiment, d'être seul devant sa copie, le temps de distribution, ça met vraiment dans de bonnes conditions d'examen, tandis que quand on est chez nous, au final, on se lève, on s'assoit, et puis on attend, et puis on n'est pas vraiment dans les mêmes conditions de travail.
Donc là, c'est intéressant, hein, de se dire, alors en même temps, on peut imaginer des gens qui font leur partiel, disons, en pyjama, potentiellement qui trichent, Mais en même temps, il y en a d'autres pour qui ça va être beaucoup plus angoissant d'attendre devant un ordinateur, peut-être que la connexion va lâcher ou que sais-je. Et donc, du coup, oui, c'est très compliqué comme, comme mise en place. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
C'est vrai qu'en fait, il y a aussi le stress qui s'ajoute des problèmes de connexion. C'est vrai qu'en plus dans l'angoisse du sujet, bon, du partiel, de l'examen, il y a le stress de est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème informatique, que je ne vais pas avoir de connexion, que la page ne va pas se charger, voilà. Et ensuite, c'est vrai que quand on est en présentiel, quand une épreuve dure, admettons, de 9h à midi, on arrête d'écrire. En distanciel, à midi, on doit avoir déjà rendu le sujet, c'est-à-dire qu'on doit avoir converti la page en PDF, on doit avoir pris le temps de la déposer sur le site, etc. Ce qui fait qu'on on perd quasiment 5 minutes de rédaction, de relecture qu'on aurait eu sur place. Et sur une épreuve d'une heure, 5 minutes, c'est énorme. Donc c'est vrai que ça a pu se sentir pendant nos examens, en fait.
Et ça, vous avez pu échanger avec l'université ou des profs à ce sujet ou
Moi, personnellement, non.
Voilà. Sur l'impact, même psychologique hein, de ces examens sur les étudiants. Peut-être qu'on le mesurera dans un an, je ne sais pas, mais il y aura sûrement des conséquences.
Oui, sûrement, sûrement. De toute manière, le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place des aides psychologiques pour les étudiants qui étaient souffrants psychologiquement. À la faculté Tours, notamment, il y a eu des permanences psy. Le gouvernement a mis en place des chèques psy également pour offrir à des étudiants 4 séances, il me semble, pour aller voir un psychologue. Cependant, ces chèques psy sont par définition assez compliqués à... Enfin, il est compliqué d'y accéder puisqu'il faut d'abord aller voir un médecin traitant qui certifie qu'on a besoin de cette aide psychologique. Et il y a seulement certains cabinets psy qui sont membres de cette procédure. Et du coup, au final, c'est une bonne mesure, mais elle n'a pas été très appliquée finalement. Il y a eu également une plateforme psy qui a été... organisé pour les étudiants. Alors j'ai mangé le nom, je ne sais plus le nom de la plateforme, désolée.
En tout cas, il y a eu des tentatives.
Oui, on ne peut pas reprocher le manque de tentatives, ça c'est sûr.
C'est sûr, on peut aussi rappeler qu'il y a le service de santé universitaire.
Ouais. Évidemment, oui, qui a joué un rôle majeur d'ailleurs durant cette crise sanitaire, puisqu'il a proposé des kits Covid au début de l'année. Et maintenant, on peut voir même des... la distribution d'autotests qui a été mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, toujours. Mais oui, le SSU, il a été très présent pour les étudiants. On a voulu s'entretenir avec les directrices du SSU. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, à mon grand regret, mais ça aurait été très intéressant d'échanger avec elles.
Voilà, bon, bons entendeurs. Hein. Si jamais elles nous écoutent, on peut rêver. Et voilà, vous pouvez leur faire part de ce regret. Et je vous propose, mesdames, de faire une première pause musicale dans cette méridienne avant de continuer cet échange autour de vos travaux. Comment maintenir l'action publique dans le cadre de là où le Covid-19. Vous écoutez la méridienne sur Radio Campus Tours. vous écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tours. Merci à vous, Emma Desbris, de nous avoir présenté ce travail que vous avez mené avec votre groupe sur les universités dans la tourmente de la Covid-19. Voilà, donc je pense que nous pouvons à présent passer la parole à Agathe Fontenot et Julie Grazli. Vous allez nous parler de l'administration pénitentiaire face à la Covid-19. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes toutes les trois étudiantes en L3 droit public à l'université de Tours.
Donc bonjour, donc oui, nous sommes trois étudiants, donc Julie Grazli qui est avec moi et Morgane Clémente. Ce choix de travailler sur l'administration pénitentiaire, il n'est pas venu tout de suite. On a mis quelques jours avant de vraiment se fixer sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que quand on s'est posé la question de si on voulait travailler sur ce sujet, c'est assez rapidement devenu une évidence. Parce que c'est vrai que c'est un sujet très particulier. Enfin, ce service public-là, il est essentiel dans notre pays et il pose des questions très intéressantes. Déjà, dans un premier temps, c'est l'aboutissement, en fait, de notre justice. Donc, c'est essentiel. C'est vrai que sans le service public pénitentiaire, sans l'incarcération, sans tous les établissements pénitentiaires, notre justice serait complètement ineffective. C'est la dernière étape, la clé de voûte, plus ou moins, de la justice. C'est-à-dire, oui, vraiment, l'application concrète et effective des peines. Donc, déjà, ce premier point nous intéressait énormément. Et surtout... L'administration pénitentiaire, enfin ce service public, il paraît très précis, mais en fait il ne l'est pas vraiment. C'est vraiment révélateur de l'état de notre société en tant que telle. Ça paraît très précis, mais en fait ça montre comment nous voyons notre société, comment nous voyons la justice, quelle est la place de la répression en fait dans notre système, en fait dans la société française. Donc toutes les questions qu'on s'est posées pendant ce sujet, pendant ces travaux, en fait, c'était révélateur de beaucoup plus que seulement l'état de nos prisons. Donc, c'était déjà très intéressant. D'ailleurs, on le voit bien, quand une société devient autoritaire, quand un régime parlementaire se transforme en dictature, ça se ressent sur les prisons. En général, il y a une augmentation du nombre d'incarcérations, il y a de nouvelles peines qui sont créées. Donc en fait, toutes les évolutions de nos sociétés se voient dans nos prisons. Notamment, donc, rien que par l'état de... Enfin, par leur salubrité, par leur état concret, matériel, par le nombre de détenus. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé ce sujet très intéressant. Et également, donc, pour quelque chose de peut-être plus juridique, l'administration pénitentiaire est particulière en ce que le juge a une place un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus réservée. Pendant des années, le juge, il n'observait pas ce qui se passait au sein des prisons. C'est-à-dire que quand on sanctionnait un détenu, quand on mettait un détenu à l'isolement, le juge, il ne contrôlait pas ces mesures. Donc c'était pas une zone de non-droit, mais c'était une zone où l'administration était peut-être plus libre que dans d'autres services publics. Donc c'est vrai que pendant ce travail, on a aussi étudié quelle a été la place du juge pendant cette crise, comment il a pu contrôler cette administration, comment il a pu contrôler les décisions qui ont été prises pour adapter l'administration pénitentiaire, donc le fonctionnement de ces établissements pendant la crise du Covid. Et aussi, on a choisi ce service public parce qu'il est peu connu, et c'est vrai que même nous, qui sommes en droit, donc il y a quand même un lien très fort avec le droit et la justice, eh bien au final, on connaît assez peu, très peu même, son fonctionnement. Même dans les médias, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu tabou, qui peut être parfois un peu caché. On ne sait pas en fait ce qui se passe dans les prisons. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, bah, travailler un an, en tout cas toute notre année scolaire dessus, ça pouvait être tout simplement très intéressant et nous montrer quelque chose que bah, dans la vie courante, on n'étudierait pas forcément. Donc voilà.
Ah oui, qu'on n'étudie pas vraiment dans la vie courante, mais aussi du coup, un peu dans nos études, on n'a pas forcément fait beaucoup de droit pénal. Et c'est vrai que choisir ce sujet, c'était bien l'occasion d'approfondir nos connaissances dans ce domaine juridique aussi. Et oui, de voir un petit peu comment ça se passe dans les prisons, l'état des prisons. Je pense notamment aux surpopulations, la situation carcérale, mais aussi des conditions de détention, en fait. Donc oui, c'était l'occasion de découvrir un peu un aspect du droit qu'on connaissait moins.
Et c'est vrai que par rapport à la crise du Covid-19, les prisons ont été extrêmement impactées, finalement. On en a relativement peu parlé dans les médias, mais il y a eu un énorme impact sur les prisons, parce qu'en fait, le système carcéral est déjà fragile. Depuis des années, on est en surpopulation carcérale, il y a des conditions de vie qui ne sont pas forcément favorables. Et en fait, la crise, elle n'a pas créé des problèmes. Elle a exacerbé des problèmes déjà existants. Et donc, ça a été très intéressant d'étudier quelle procédure l'administration pénitentiaire a mis en place pour continuer, déjà, tout simplement de continuer ce service public. Parce qu'on ne peut pas l'interrompre, on ne pouvait pas libérer toutes les prisons. Donc, il a fallu s'adapter très vite, en fait, pour limiter les contaminations, pour parfois libérer certains détenus, mais sans mettre en danger la population. Donc, c'est vrai que ça a été une période de grand bouleversement pour l'administration pénitentiaire.
Oui, exactement. C'était une année quand même très compliquée. Et oui, c'est ça, la pandémie, elle n'a pas vraiment créé plus de problèmes. Ça a exacerbé les problèmes déjà existants dans l'administration pénitentiaire. Mais c'est vrai que du coup, ça a peut-être pu engendrer quelques changements. Je pense notamment à l'organisation des services, mais aussi au niveau de la législation. On a pu être condamné plusieurs fois par les différents juges. Donc, c'est évidemment une année très compliquée, mais oui, une année qui a apporté du changement, et on peut l'espérer du changement pour le futur, de manière générale, dans le service, pour l'améliorer.
Et c'est vrai qu'en fait, par rapport à d'autres services, notamment, enfin, je sais pas, par exemple, l'université, vu qu'on en parlait tout à l'heure, le problème qui s'est posé ici, c'est qu'en fait, c'était pas qu'une question d'organisation, etc. C'était la vie des détenus qui était entre les mains de l'administration. Parce que les détenus sont sous la responsabilité de l'administration. C'est-à-dire que l'administration doit garantir leurs droits, mais aussi leur santé, leur sécurité. Donc il a fallu prendre énormément de mesures pour les protéger. Parce que certes, ils sont détenus, mais il fallait apporter des masques, faire en sorte qu'ils ne soient pas contaminés. C'est pour ça que les parloirs ont été fermés pendant des mois. Il n'y avait plus de visites, il n'y avait plus forcément de promenades. Enfin, en fait, il y a eu cet aspect sécuritaire qui a été sanitaire très, très importante. Donc il a fallu à la fois continuer à exécuter la peine, donc à conserver l'incarcération, tout en les protégeant, tout en libérant certains détenus parce qu'il y avait trop de personnes dans les prisons et que du coup, plus il y a de personnes dans une même pièce, on le sait bien maintenant, plus il y a de risques de contamination, etc. Donc, en fait, il a fallu trouver cet équilibre et ça a été au départ assez compliqué, mais finalement, je pense que tu es d'accord avec moi, Julie, mais on a fait un bilan plutôt positif de ce qui s'est passé.
Et sur les agents aussi, qui ont été très impliqués, très professionnels et qui ont vraiment réussi à s'adapter au mieux face à la situation très compliquée. Et oui, en prenant en compte leurs responsabilités lourdes, un service public particulier, vis-à-vis des détenus, il y a une responsabilité qu'il faut prendre en compte. Donc ça a été plutôt bien réussi, on va dire que les agents ont fait au mieux. C'est vrai que ça n'a pas aidé non plus la situation de pandémie dans les prisons.
C'est ça, et puis pour le moment, c'est pas fini quoi. Il y a encore, récemment, il y a eu quand même beaucoup de clusters. Donc il y a encore beaucoup d'efforts qui doivent être faits par l'administration pour éviter les contaminations et pour améliorer les conditions de vie également.
Oui, en fait, on a pu parler un petit peu dans l'actualité aussi. C'est aussi un peu ça qui nous a dirigé vers le choix de ce sujet. On avait vu des actualités, donc oui, sur les clusters des prisons, mais aussi, je pense, à la dignité humaine, du coup, les conditions de détention, ou encore la prolongation des détentions provisoires qui a pu faire débat. Il y a eu pas mal d'actualités quand même là-dessus. Du coup, ça montrait bien déjà les problèmes existants.
C'est ça. Et finalement, on a aussi fait ce bilan positif dans le sens où donc il y avait des réformes qui devaient être faites, même avant la crise, même début 2020, des réformes devaient être faites. Mais le fait qu'il y ait la crise, ça a forcé le gouvernement, le ministre de la Justice, l'administration pénitentiaire, à les faire vite, parce qu'il fallait les faire. Et notamment, le 30 janvier 2020, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour déjà les conditions de vie indignes dans les prisons, donc pour des raisons d'hygiène, la surpopulation, etc. Et par le fait qu'il n'y ait pas de recours effectif pour justement, critiquer ces conditions de détention. En fait, les détenus n'avaient pas de procédure particulière pour demander au juge de les changer de prison ou au moins d'améliorer leurs conditions de vie. Donc on avait déjà été condamnés avant même la crise sur ce sujet. Et en fait, le fait qu'on doit vider les prisons très rapidement du fait de la crise, etc., qu'on parle aussi un peu plus des prisons, ça a forcé le garde des Sceaux et l'ensemble des agents à en fait prendre des mesures concrètes et effectives pour améliorer ces problèmes. Et donc il y a notamment actuellement deux lois qui sont... Enfin, il y a un projet de loi et une loi qui a déjà été adoptée, je crois.
La loi du 8 avril 2021. Qui répond un peu de façon quand même imparfaite aux critiques qui ont pu être faites donc par la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi par le Conseil constitutionnel. Donc qui répond, on va dire, à cette nécessité d'un recours effectif pour les détenus. Mais il reste toujours un peu ce problème de conditions de détention, conditions indignes, et bien sûr, évidemment, de surpopulation, qui est un problème un peu plus large et qui demande des solutions,
c'est ça,
plus de moyens.
Disons qu'on est sur la bonne voie. La crise a presque, entre guillemets, été quelque chose de positif pour les prisons.
Entre gros guillemets.
Gros guillemets. Hein. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu des améliorations qui ont été faites, par exemple... au 1er janvier 2020, il y avait 72 000 détenus donc en France. Actuellement, il y en a 62 000, donc déjà 10 000 de moins. C'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est déjà mieux. Mais il y a toujours un taux d'occupation moyen de 116%. Donc on voit qu'il y a toujours, il y a environ en France actuellement 700 détenus qui dorment sur des matelas, donc qui n'ont pas tout simplement de lit, donc qui sont dans une chambre à parfois 4 ou 5. Donc sur des toutes petites chambres, donc c'est pas parfait, mais il y a une petite amélioration. Après, les efforts sont bien sûr à poursuivre, c'est ce qu'on a voulu mettre en évidence en fait dans notre rapport Exactement. Parlementaire de cette semaine en fait. C'est de toutes les améliorations qui sont encore à faire, même si on a eu, c'est bien, mais c'est pas fini.
Voilà, donc vous avez dit tout à l'heure aussi qu'il y avait quand même peu de médias qui se saisissaient de cette question. Donc j'aimerais savoir comment vous avez travaillé pour trouver vos sources en fait. Où est-ce que vous avez été vous documenter?
Oui, c'est vrai que c'était pas forcément évident de trouver de la matière. Il y en avait, mais il a fallu un petit peu chercher. Et c'est pas forcément très relayé dans les médias de façon très précise. Un site qui nous a été très utile, c'est le site de l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Il y a beaucoup, pas mal de documentation qui... C'était pas mal. Oui, c'était un peu ça, les difficultés réalisées pendant le travail. Et le fait que, oui, c'est ça, pour échanger un petit peu avec le personnel, les agents dans le service, c'est un petit peu compliqué. On le disait, c'est un service particulier, il est un petit peu... fermé, c'était pas forcément évident de prendre contact et de pouvoir échanger sur comment ça se passe concrètement dans l'organisation à l'intérieur.
On a essayé en fait de contacter certains agents, donc soit des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, soit des personnels plus administratifs dans les établissements pénitentiaires, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de refus parce que en fait il faut les autorisations de la direction interrégionale. Et elles sont très, très compliquées à obtenir. Ce qui fait que les seuls entretiens, entre guillemets, ou les seuls échanges qu'on a pu avoir, c'était surtout avec des syndicats. Parce qu'ils acceptent plus facilement de communiquer pour revendiquer aussi leurs idées, etc. Mais c'est vrai qu'à part eux, c'était extrêmement compliqué d'avoir un témoignage direct de quelqu'un travaillant sur place. Et pour rentrer dans une prison, déjà que c'est compliqué actuellement, mais
alors là,
autant dire que depuis un an, c'est tout simplement impossible de ne serait-ce que visiter une prison. C'est complètement impossible.
Et parce qu'il y a, donc vous avez travaillé avec les syndicats sur ce sujet, mais il y a aussi des associations, je pense au Genepi par exemple, donc qui intervient en prison. Est-ce que c'est des sources où vous auriez pu solliciter, ou vous avez sollicité aussi des associations qui accompagnent les détenus ou les anciens détenus?
Alors, on ne les a pas forcément, nous, sollicités pour ce travail. Mais c'est vrai que les associations, même elles, ont eu du mal à intervenir dans les prisons. En fait, quasiment tout a été fermé pendant quelques mois, hein. Même tout ce qui va être enseignement. Parce que normalement, donc, pour permettre la réinsertion des détenus, les détenus peuvent travailler ou étudier, donc passer par exemple leur baccalauréat ou d'autres diplômes. Et c'est vrai que même ça, ça a été interrompu. En fait, ils ont vraiment essayé de rendre la prison, on va dire, hermétique, que plus personne n'entre de l'extérieur. Donc même les avocats, pendant quelques mois, ne pouvaient plus rendre directement visite aux détenus. Donc c'est vrai que même les associations, ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient.
Les conditions beaucoup plus strictes, c'était beaucoup plus compliqué de communiquer.
Alors, vous avez dit aussi, toutes les deux, que c'est un sujet que vous connaissiez peu à la base, mais voilà, qui a été vraiment intéressant pour vous sur cette année, hein, puisque, comme vous l'expliquiez, vous avez travaillé deux semestres sur un sujet. Je voudrais savoir, est-ce que ça va avoir une influence quelconque sur votre projet professionnel? Est-ce que c'est un domaine où vous vous dites, tiens, c'est vraiment intéressant, j'aimerais bien creuser la question?
Ah, c'est vrai que personnel, ça m'a intéressée, notamment par rapport à tout ce qui est conditions, détention, dignité humaine. C'est vrai qu'un peu notre parcours en droit public reprend un peu les thématiques dans certaines de nos matières, droit et liberté fondamentale. Donc c'est vrai que pour cet aspect-là, c'était intéressant et ça m'a fait découvrir aussi un domaine que je ne connaissais pas vraiment. Ça, c'était bien. Après, il me semble que mes collègues sur ce rapport avaient un peu pour ambition de se diriger peut-être dans ce domaine-là.
C'est vrai que j'avais déjà l'idée je m'intéressais déjà à ce domaine un petit peu avant, mais c'est vrai que ça m'a un peu confortée dans mon choix, donc je vais essayer de passer les concours de l'administration pénitentiaire à l'avenir. En tout cas, c'est mon projet actuel. Ça m'a permis de mieux connaître en fait ce domaine. J'aurais pas autant approfondi ma recherche au niveau d'orientation professionnelle si je n'avais pas fait ce sujet, donc ça m'a pas mal aidé. Et en fait, ça m'a montré tout le travail qu'il y avait encore à faire et que si je pouvais apporter aussi ma contribution à tout ça, ça pourrait être pas mal.
Alors, c'est quoi ces concours? Est-ce que vous voulez expliquer, hein, puisque Radio Campus, bon, peut-être que des étudiants nous écoutent et ne connaissent pas du tout ce domaine d'études.
Donc, vu que ça fait partie de l'administration publique, pour travailler donc, en tant que fonctionnaire, donc, il faut passer des concours. Donc il y en a plusieurs, s'agissant de l'administration pénitentiaire, il y a celui de directeur par exemple, il faut je crois une licence, pas forcément de droit d'ailleurs. Donc directeur, ensuite il y a conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, donc c'est accessible pareil après une licence. Et il y a surveillant pénitentiaire, donc là je crois qu'il faut juste le baccalauréat de mémoire. Sinon il y a des concours pour être... lieutenant pénitentiaire, donc c'est plus tout ce qui va être d'organiser la sécurité, etc. dans les établissements. Donc voilà, donc il y a quand même de belles carrières à faire dans ces métiers-là. Et il y a une formation, donc qui est en fait l'administration pénitentiaire a sa propre école, donc l'école nationale d'administration pénitentiaire qui est à Jean. Donc tous ces professionnels, tous ces futurs agents, tous ces stagiaires, après avoir passé le concours, vont en général, un an à l'ENAP, à Agen, et puis un an de stage en général. Donc voilà. Et ils recrutent beaucoup d'ailleurs. Ah. Parce qu'il y a besoin de plus en plus d'agents. D'ailleurs, la loi de finances pour 2021 a prévu plus de 1000 fonctionnaires supplémentaires dans cette administration. Il y a une hausse du budget, donc c'est vrai que c'est dans les années à venir, c'est une administration qui recrute énormément du fait de cette surpopulation, de la nécessité de créer des établissements pénitentiaires. Donc il faut les agents qui vont avec.
Alors je me tourne vers vous, Emma Desbrey, parce qu'on se fait un moment qu'on ne vous entend plus. dans quelle mesure, vous, votre travail sur les universités peut être intéressant pour vos projets professionnels? Est-ce que, justement, ce qu'expliquent vos camarades sur l'administration pénitentiaire, ça vous intéresse aussi? Qu'est-ce que vous aimeriez dire?
En réalité, je suis un petit peu un cas à part, puisque j'ai postulé dans des masters qui ne sont pas du tout de droit. Donc les prisons, du coup, non, ça ne m'aide pas pour mon projet professionnel, ni étudier les universités. Mais bon, je suis un cas à part.
Mais alors, par curiosité, est-ce que vous voulez nous dire dans quel master vous avez postulé?
J'ai postulé dans des masters de direction de projet ou d'établissement culturel. pour organiser des festivals, diriger des salles de spectacle, donc pas du tout pareil que ce que je fais en ce moment.
Au demeurant, ça peut vous être utile aussi, sur tout ce qui est droit culturel.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que je bascule par là, c'est pas non plus complètement aléatoire.
Comment ça va vous aider alors, cette licence de droit dans ce domaine-là de compétences ?
Eh bien, toutes les notions juridiques à acquérir pour mener à bien des projets culturels, tout simplement.
Voilà, bon, eh bien merci. Je vous propose de faire une seconde pause musicale dans cette méridienne, mesdames, et on se retrouve évidemment après. On est toujours sur Radio Campus Tours.
L'heureux noir. Qui osera éditer mes vers et mes pensées? Qui donc prendra pitié de l'esclave libéré? Dans ma peau ténébreuse, mon âme est très heureuse. Sera-t-elle donc chanceuse? Sera-t-elle chaleureuse au cœur d'un éditeur? Qui comprendra l'auteur? Mes cheveux sont crépus, mes lèvres sont immenses. Ce monde qui me tue me donnera-t-il ma chance? Je n'oublierai jamais le mal fait à mes pères. Jamais je ne renierai la couleur de ma peau. Mais je m'épuiserai ceux qui ne voulaient pas l'être et qui pourtant le sont. Car je suis noir et j'en suis fier.
Toujours la Méridienne sur Radio Campus Tours et je suis ici en studio avec trois étudiantes de la licence de droit public de l'Université de Tours. Alors Emma Desbrés, vous souhaitiez nous parler d'un sondage que vous avez pu mettre en place dans le cadre de votre travail.
Oui, en effet, la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, pardon, affirme depuis quelque temps dans les médias qu'elle prépare une rentrée en 100% présentiel. C'est pourquoi il nous a paru pertinent de sonder des terminales qui sont donc les futurs étudiants pour savoir comment ils appréhenderaient une rentrée à distance. Et en réalité, ce sondage n'a pas obtenu beaucoup de réponses, mais concernant des réponses écrites, on leur a demandé pourquoi ils ne souhaitaient pas avoir une rentrée à distance. Et en réalité, on a pu lire clairement une vraie angoisse d'une nouvelle rentrée à distance, notamment une peur de ne pas faire de relations sociales, de ne pas se faire d'amis, de ne pas savoir vers qui se tourner si jamais ils ne comprennent pas les cours. Toute manière, tout ce nouvel environnement qui est quand même une sacrée étape dans notre vie, être étudiant, être pour la plupart indépendant, vivre hors de chez leurs parents. C'était déjà très angoissant, et ajouter à ça une rentrée à distance, on a pu constater que ce serait vraiment dévastateur pour eux et qu'il y avait une réelle peur du décrochage. Et on le sait très bien qu'en première année, beaucoup de personnes changent d'orientation parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Or, un réel décrochage en première année, ça pourrait être assez nocif, sachant que bah oui, l'université, c'est un nouveau mode d'enseignement qui pourrait du coup être nocif s'il était en distance. Du coup, on a pu étudier les différentes interventions de Frédéric Vidal dans les médias, qui dit préparer du coup une rentrée 100% présentielle. On espère sincèrement, de toute manière, tous qu'elle va se faire, puisque retourner à la fac, on ne demande que ça. Mais je pense que oui, que de toute manière, comme cette année-ci où les L1 ont pu retourner à la fac plutôt que nous, je pense qu'il faut maintenir ces efforts envers les premières années qui sont demandeurs d'aller à la fac et pour qui une rentrée à distance les angoisse réellement.
Merci. Donc je me tourne vers vos camarades. Je crois que vous vouliez ajouter quelque chose aussi, notamment sur la façon dont vous avez travaillé.
Oui, tout à fait. La manière dont on a organisé un petit peu notre travail à trois, donc, on a commencé par un peu dégrossir le travail en faisant des recherches un peu globales sur comment fonctionnait un peu le service, des choses qu'on connaissait pas forcément de base, un petit peu mieux comprendre l'organisation générale. Et il y avait pas mal d'actualités, comme je le disais, à ce sujet. Je pense notamment aux prolongations automatiques des détentions provisoires auxquelles on a travaillé. Et après, on a posé ensemble les bases de notre rapport. On a fait une trame, un plan, et on s'est un peu réparti le travail comme ça, en se spécialisant, on va dire, sur des éléments de notre rapport. On a ensuite mis en commun, repris tout ensemble, pour bien harmoniser, homogénéiser notre travail et rendre quelque chose qui nous convenait. Et faut aussi préciser que, du coup, le contexte sanitaire étant celui qu'il est, il a fallu qu'on travaille complètement en distanciel. Donc pour un projet de groupe, c'était pas forcément évident non plus. On s'est jamais vu pour faire le rapport, le projet. On a dû faire par visioconférence. Donc ça s'est bien passé, mais c'était un peu nouveau quand même pour nous. Voilà.
Voilà, cette émission touche déjà à sa fin, presque. Donc je remercie mes invités d'aujourd'hui, Emma Desbrés, Agathe Fontenot, Julie Guazelli. Mesdames, le mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire pour conclure cette émission ?
On voudrait déjà remercier notre professeur, Monsieur Aubin, qui nous a permis de faire ce travail, donc toute une année là-dessus, et surtout de venir chez vous aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu l'accomplissement de notre travail, de pouvoir vous présenter ce qu'on a fait. Donc voilà, on voulait le remercier pour cette opportunité.
Oui.
Voilà, et bien je rajoute que la radio ne s'envole pas, hein, qu'on émet 24 heures sur 24 toute l'année. Donc avis aux étudiants intéressés, n'hésitez pas à venir faire des chroniques ou des émissions chez nous. On sera évidemment très contents de vous accueillir. Il me reste, chers auditeurs, chers invités, à vous souhaiter une excellente journée. Un bon appétit si vous vous approchez de votre assiette. Voilà, bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes.